Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Albert-Ganti.
Bonjour et bienvenue à tous dans le club Sciences publiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous quotidien des émissions de sciences sur France Culture. Comme d'habitude, nous vous invitons à nous adresser vos réflexions et vos commentaires sur le site de Sciences publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la médiascience ? Après la vulgarisation et la médiatisation, voire la médiation de la science, voici la médiascience. Le mot peut d'autant plus surprendre qu'il n'existait, semble-t-il, pas avant que Michel Classens, professeur à l'Université libre de Bruxelles, n'utilise ce néologisme dans son dernier livre intitulé « Allô la science, analyse critique de la médiascience ». L'auteur que nous recevons aujourd'hui dans le club Sciences publiques nous expliquera comment il a été conduit à créer ce terme. Son ouvrage, lui, démontre la mécanique des relations complexes d'un trio d'acteurs, les chercheurs, les journalistes dits scientifiques et le grand public. Les interventions d'autres personnages industriels ou politiques viennent encore perturber le fonctionnement laborieux de ce trio. Un tel constat ne peut toutefois conduire au découragement tant les enjeux deviennent tous les jours plus importants. Ces enjeux dépassent en effet désormais largement leur contribution pourtant essentielle à la constitution de l'honnête homme, cet être surgissant du XVIIe siècle et que Montaigne a défini en donnant sa préférence à une tête bien faite plutôt que bien pleine. Aujourd'hui, la science se glisse dans la plupart des sujets d'actualité. Parmi les plus récents, on peut citer le séisme du Japon et la catastrophe nucléaire de Fukushima, l'exploitation des gaz de schiste ou même les interprétations psychiatriques du comportement sexuel de Dominique Strauss-Kahn. Désormais, les connaissances scientifiques vont sans cesse convoquer chercheurs pour participer au débat démocratique, mais les éclairent-elles vraiment ? Pour débattre de la médiascience, nous recevons aujourd'hui dans le club Sciences publiques, en direct depuis le studio 167 de la Maison de la Radio, Benjamin Dessus, qui est ingénieur et économiste, président de Global Chance, une association de scientifiques qui propose une expertise indépendante sur les thèmes de l'énergie et des gaz à effet de serre. Michel Classens est enseignant à l'Université libre de Bruxelles et récemment nommé responsable de la communication du projet ITER. Et il est l'auteur de « Allô la science, analyse critique de la médiascience » paru chez Hermann il y a quelques semaines. Pierre-Henri Gouillon est biologiste, spécialisé en sciences de l'évolution, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, à l'Agro ParisTech et à Sciences Po, et un habitué du club Sciences publiques, tout comme Jean Rivenot, médecin journaliste scientifique à Slate.fr. Et nous sommes également en compagnie de quelques étudiants en troisième année de licence à l'Université Paris 8 et qui ont travaillé sur le livre de Michel Classens dans le cadre d'un cours sur la médiation scientifique. Ils pourront en fin d'émission intervenir pour poser leurs questions à nos invités. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires et vos réflexions sur cette émission sur le site de Sciences publiques sur franceculture.com. Michel Classens, bonjour.
Bonjour.
Alors pour lancer ce débat, je ne pense pas que vous puissiez éviter de nous donner une définition de ce que vous avez appelé la médiascience dans l'ouvrage que j'ai cité.
Oui, tout d'abord merci de m'avoir invité à ce débat médiasympathique. Définition de la médiascience, le livre montre en fait que la science qui paraît dans les médias, qui est répercutée par les médias, est une science assez particulière, d'où ce concept de médiascience. En l'occurrence, trois grandes caractéristiques de cette médiascience. C'est à la fois les sujets. Il est bien connu, par exemple, que les thèmes de la santé mobilisent près de la moitié des rapports médiatiques sur la science. C'est à la fois aussi le format. Parler d'un sujet scientifique au JT impose des contraintes particulières en termes de temps, notamment selon les statistiques de l'INA. Une news au JT scientifique aussi, c'est à peine une minute. Donc c'est un format très particulier. Et la médiation, c'est finalement très peu de science aussi. C'est surtout les applications, les potentialités, les craintes aussi de recherche scientifique. Alors le journaliste scientifique anglais Ben Goldacker, qui travaille au Guardian à Londres, avait une définition un peu plus sarcastique de la médiascience. Pour lui, il y a trois types de sujets scientifiques dans les médias. C'est ceux qui font peur, c'est ceux qui sont futiles et accessoires, et dernière catégorie, mais minoritaire, les vrais progrès.
Donc quand même, les vrais progrès arrivent à percer dans les médias, d'après ce que vous dites. Mais avec les contraintes dont vous avez parlé, c'est-à-dire ces formats parfois très courts, etc.
Oui, il y a d'autres contraintes aussi que j'évoque dans le livre, c'est que la médiascience parle aussi des sujets dont les scientifiques veulent bien parler. Je m'explique. Il y a deux contraintes sur le système de recherche scientifique à l'heure actuelle, c'est-à-dire que on parle essentiellement des recherches qui sont finalisées, qui sont publiées dans les grandes revues scientifiques. Donc toute la recherche qui est en cours dans les laboratoires est grossièrement passée sous silence. Aussi pour des raisons de recherche privée. Tout ce qui se passe dans les industries ou tout ce qui peut mener à un brevet est volontairement gardé sous silence. Donc il y a tout un pan de la recherche scientifique à l'heure actuelle qui est quasiment inaccessible au grand public.
Très bien. Alors avant de donner la parole à la Défense, parce que nous avons un représentant de ces journalistes scientifiques dont vous parlez, peut-être, continuons le tour de table, Pierre-Henri Gouillon, quelle réaction en tant que scientifique, en tant que chercheur, à cette question de la médiation de la science? Comment elle est traitée par les médias? Comment vous la ressentez?
Non, c'est vrai qu'assez souvent, on est obligé de parler de science en des temps horriblement courts, et que ça pose un vrai problème si on doit parler de science. Moi, je vous avouerai que mon problème, c'est surtout que la science, on en voit une partie dans l'histoire de la médiascience, mais tout à fait, on voit pas le reste, et que dans les labos, ça se passe un peu pareil. Il faut, pour pouvoir avoir de l'argent pour faire de la science, faut proposer des applications. Et si jamais, vous vous occupez plutôt d'essayer d'éviter les risques, on parlera peut-être de vous à la radio, mais vous aurez pas de crédit pour travailler dessus. C'est ça, peut-être le point important, c'est qu'actuellement, le financement de la recherche est quand même très largement lié à des applications, à des brevets, à des potentialités financières. Et du coup, ça crée un deuxième déséquilibre, je dirais. C'est qu'il y a des questions comme, par exemple, les risques liés aux OGM, qui sont à peu près pas étudiés dans les labos, parce qu'il n'y a pas de crédit pour travailler là-dessus, mais dont on parle largement dans les médias. Donc vous voyez, on est dans une situation un peu curieuse où il y a en plus une déconnexion entre ce qui se fait dans les laboratoires et puis ce qui va être médiatisé.
Donc il y a effectivement un deuxième niveau de médiation qui n'est pas destiné au grand public, mais qui est destiné aux financeurs, par exemple.
Absolument. Évidemment que chaque... Et d'ailleurs, maintenant, les grandes revues comme Nature... vous le savez bien, travaille beaucoup avec les journalistes des grands journaux de manière à publier essentiellement les articles qui vont pouvoir être repris dans les médias. Donc on a, en tant que chercheur, quand on propose un article, maintenant c'est plus seulement la valeur scientifique de l'article qui va faire qu'il va être publié ou pas, mais c'est aussi la valeur médiatique de l'article. Alors ça complique singulièrement. Ceci dit, je voudrais quand même vous dire que sur toute une série de points, heureusement qu'il y a les médias. Parce que si jamais il n'y avait pas les médias pour lever un certain nombre de lièvres, je parlais de certains risques liés aux biotechnologies, mais aussi au nucléaire ou à d'autres questions, eh bien, ce n'est pas les instances de la recherche qui favoriseraient le fait que ce genre de choses soient étudiées.
Très bien. Benjamin Dessus, sur cette question de la médiation, comment vous réagissez en tant qu'observateur?
Moi, je réagirais non pas en tant que scientifique, que je suis par ailleurs, mais plutôt en tant que mon métier de Global Science, en tant que citoyen. En tant que grand public, c'est vrai que quand on est à la télévision, on vous raconte la science en 30 secondes. Mais c'est pas vrai quand on lit Le Monde, c'est pas vrai quand on lit Science et Avenir, etc., etc. Et là, je ferai un autre reproche différent à nos camarades journalistes, qui est que la plupart du temps, ils nous racontent une histoire intéressante, par exemple dans le cas du nucléaire, sur ITER, on voit des guerres de neutrons, des atomes qui fusionnent, des machins, c'est formidable, quoi. On vous raconte une histoire magnifique, quoi, pour intéresser les lecteurs, mais je crois que je n'ai jamais vu aborder la question, et si ça marche, ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? Or, pour le citoyen moyen qui se fout complètement des neutrons, Ce n'est pas son problème. La question qu'il a derrière, c'est beaucoup plus... Ce n'est pas son premier problème, je vois Pierre en train de râler.
Ce n'est
pas son premier problème. Son problème, c'est... On nous emmène dans un machin qui va coûter un certain nombre de milliards, etc. Imaginons, si ça ne marche pas, c'est très bien, on continue à dépenser des milliards. Si malheureusement ça marche, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi malheureusement?
Mais non, je veux dire, il faudra prendre des décisions. Et qu'est-ce que ça change dans la vie de l'humanité? Qu'est-ce que ça... Bon, mais ça, ce genre de questions n'intéresse généralement pas ni les scientifiques, ni les médias. Et ça me paraît quand même une question très importante du citoyen. C'est sur ce genre de choses que je me bats, moi.
Jean-Yves Naud.
Bon, ben, on aborde en quelques minutes beaucoup de sujets, beaucoup de questions. C'est très riche. Moi, je me sens un tout petit peu, non pas étranger, bien sûr que non, mais un tout petit peu en marge de la problématique telle que vous la posez, puisque je suis peut-être plus amené à traiter des questions médicales, mais d'un autre côté, quand on dit des questions médicales ou des questions de santé, comme disait l'auteur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, il y a une audience qui est immédiatement plus grande, tout simplement parce qu'on parle du corps, parce qu'on parle des maladies, parce qu'on parle... Et puis il y a une autre caractéristique aussi, c'est qu'au fil du temps, ce qu'on a appelé le journalisme médical ou santé, disons, s'est progressivement élargi depuis les années 80 à peu près, à la fois d'un côté à la biologie, les manipulations génétiques, le clonage, etc. Et à l'autre bout du spectre, si je puis dire, des questions relatives à la bioéthique, pour le dire simple, l'application de nouvelles techniques, une réflexion morale sur l'application des nouvelles techniques médicales concernant l'espèce humaine, disons. Donc tout ça est très vaste. Je voudrais revenir sur un point qui a été abordé, c'est peut-être que quelque chose que les citoyens n'ont peut-être pas n'ont pas conscience, mais c'est un peu une petite partie des coulisses de ce qu'on appelle l'activité journalistique. Il y a effectivement eu une évolution très très grande entre les rapports entre les grands médias, pour le dire simplement, tous médias confondus, et les sites en ligne maintenant en particulier aussi, et à la fois les grandes revues, comme Nature, comme Science, comme le New England, comme le Lancet, qui ont toute une partie qui reste quelque chose d'assez fondamental, de difficile et de pas vulgarisable, mais qui pimentent régulièrement dans chacune de leurs livraisons, effectivement, des sujets qui sont des sujets attrape-médias, pourrait-on dire, avec des instituts, des chercheurs qui publient ces publications, ces sujets qui vont monopoliser l'attention des médias, des instituts comme l'INSERM, comme le CNRS, qui font des communiqués de presse vulgarisant encore un peu plus ce que les revues ont elles-mêmes vulgarisé. C'est qu'on a une espèce de machinerie de plats cuisinés, d'articles cuisinés tout prêts, et qui sont régulièrement utilisés par les agences, par les... Et cette mécanique-là, moi je pense qu'on peut la dater de... C'était pas vrai en 1980, par exemple. En 1980, les revues restaient des revues, etc. Et puis avec les problèmes d'index factor, etc., etc., plus les revues sont citées, plus elles ont du prestige, etc. Et c'est une machinerie qui, malheureusement, ne donne pas une image particulièrement reluisante ou renommée, disons, de l'activité journalistique. Je suis un peu méchant parce que ça n'est pas, l'activité journalistique ne se réduit pas à ça. Mais il se trouve que pour ce qui est des revues, des nouveautés, du progrès, comme vous le disiez tout à l'heure, on est un peu dans cette mécanique-là.
Michel Cassens.
Oui, ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que des grandes revues scientifiques comme Nature Science sont devenues maintenant des agences de presse. Et donc ça, c'est un peu pernicieux dans la mesure où le serpent se mord la queue, avec des effets pervers. Des journalistes scientifiques confient volontairement recevoir la liste des articles et des communiqués de presse que Nature et Science envoient chaque semaine pour définir leur programme de la semaine. Et donc, c'est un peu la mort, bon, si on extrapole, c'est un peu la mort du journalisme scientifique.
Qui serait remplacé par ces sources, finalement,
alors
là,
on dit,
d'informations.
Oui, les journalistes deviennent paresseux. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais dans la crise des médias actuels, où on voit CNN, par exemple, qui a supprimé toute son équipe de journalistes scientifiques il y a 2 ans, et d'autres médias qui réduisent leur couverture en termes de science et de technique, il y a en effet une vraie menace de disparition d'un vrai journalisme scientifique, qui est d'autant plus compliqué, vu cette pression que mettent les grandes revues scientifiques, vu les pressions sur les médias eux-mêmes. Est-ce qu'on peut parler, à l'heure actuelle, d'un journalisme scientifique de qualité.
Pierre-Henri Gouillon.
Je me poserais même la question de savoir si on peut parler de science. Vous savez, il y a des moments où j'ai des inquiétudes sur ce sujet parce que tout ça fait partie d'une vaste évolution sociale qui inclut le fait que de plus en plus, la recherche s'occupe de techniques et de moins en moins de ce qu'on appelait science jusqu'à une époque récente. Alors, on a inventé le mot technoscience pour faire croire qu'on pouvait tout réunir dans un seul paquet, mais en fait, plus ça va, plus c'est techno et moins c'est science, le système. Alors, ça colle bien avec tout ça, vous voyez, parce qu'effectivement, une découverte technique, ça se raconte en pas si longtemps que ça. Un concept scientifique, ça demanderait un vrai boulot. Et effectivement, le journaliste scientifique, nous, scientifiques, ce qu'on en attendrait, ça serait qu'il essaye d'expliquer des concepts un peu compliqué avec son métier de journaliste, de manière à arriver à les faire comprendre. Mais tout compte fait, on en a de moins en moins besoin, puisque de toute façon, ce qui sort des laboratoires, c'est de plus en plus simplement technique.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. On le voit par exemple aux États-Unis, où les sites d'information développent beaucoup, je pense à Slate.com par exemple, développent énormément les nouvelles technologies, pas parce que c'est facile à faire, je crois pas, mais parce que ça intéresse le consommateur. Et ça, oui, ça intéresse le consommateur. La nouvelle application, les nouveaux moyens de transmission entre les hommes, etc., etc., la numérisation, etc. Et donc, il y a effectivement une espèce de décalage vers le pratique, vers l'outil, vers la technique, au préjudice, disons, du fondamental qui était abordé jadis.
Et comme Étienne Klein n'est pas là, je vais le remplacer. On a presque pas parlé du fait qu'on commence à avoir l'impression qu'on va le trouver, le boson de Higgs, là, mais tout le monde s'en fout. Hein, voyez, ça, c'est pas...
Benjamin Dessus, c'est un peu ce qui est en train d'être dit, c'est un peu le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure.
Non, c'est pas le contraire. Je dis, dans la mesure où le journalisme s'intéresse essentiellement, et le public s'intéresse essentiellement à la technoscience, à ce moment-là, il faut en donner les enjeux et pas seulement la décrire. Mmh. Vous voyez, c'est ça qui me gêne.
Mais est-ce qu'on est certain que le grand public ne s'intéresse qu'à la technoscience, ou est-ce que, parce qu'il y a un décalage peut-être entre l'idée qu'on se fait de ce que le public attend et ce qu'il attend vraiment, parce que cette idée, elle est dans le cerveau de décideurs qui ne sont pas forcément en prise directe avec le grand public. Michel Classens, c'est un des points que vous abordez.
Dans une vie précédente, j'ai coordonné les grandes enquêtes Eurobaromètre à la Commission européenne. Et ce qu'elles montrent, donc, ce sont des photographies qu'on peut critiquer, évidemment, hein, de l'opinion publique européenne sur les questions de science et de technique. Donc, globalement, le public européen reste très favorable à la science et à la technique. Il en attend beaucoup, parfois un peu trop, mais il reste très favorable. Ce que j'explique dans l'ouvrage aussi, et pour répondre à ce que Pierre-Henri disait, la source de l'information scientifique, ce sont les publications primaires, qui sont essentiellement techniques. Les scientifiques, ils parlent de leurs expériences, de leurs résultats, de la manière dont ils ont obtenu ces résultats. C'est très technique. On ne parle ni du contexte, ni des applications potentielles. En tout cas, c'est très secondaire. Et quotidiennement, disons, ce qui paraît dans les médias européens, moi, je suis un ardent défenseur de cette médiascience. Car, connaissant bien les sujets scientifiques qui sont en cours à l'heure actuelle, je suis étonnamment surpris, positivement surpris, de ce que la médiascience, justement, nous parle de ces sujets. Je le dis explicitement, il y a d'excellents journalistes scientifiques.
Par exemple,
qui ne sont pas toujours scientifiques, d'ailleurs, de formation.
Quels sont les sujets scientifiques qui vous paraissent bien couverts aujourd'hui, par exemple, par la médiascience ?
Alors, il y a des différences de pays à pays, de média à média. Donc, difficile de donner ici, en quelques secondes, une image globale. La santé, très bien. Les sciences de la vie, en général, sont bien couvertes. Les sciences physiques, astronomiques aussi. Très peu de mathématiques, par exemple. Et là, ben, dans certains pays européens, les mathématiques ne sont pas considérées comme sciences. Donc, ça, c'est un autre débat. Donc, il y a une photographie quand même qui est relativement bonne. Mais transparaît dans les eurobaromètres, d'ailleurs. Finalement, le public européen est relativement bien informé sur la science et la technologie, même s'il il exprime un besoin d'avoir davantage d'informations.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait un appétit qui soit mal, peut-être, oui. identifié ou mesuré par les médias, finalement.
Absolument, oui.
Pierre-Henri Gouillon.
Je pense que les sciences qui nous racontent notre histoire, de toute façon, sont attractives par la connaissance et pas par leurs applications nécessairement. Je pense que si les sciences de l'univers, d'une part, et puis en biologie, l'évolution, ben c'est quand même beaucoup plus facile d'intéresser des gens à des sujets d'évolution qu'à des sujets de biologie moléculaire standard dans le grand public. On voit bien pourquoi. Donc du coup, là, il y a juste une demande de connaissance, et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'il y a cette espèce de déconnexion entre le moment où on parle de choses parce qu'elles intéressent les gens, l'évolution, l'astronomie, etc., puis le moment où on leur parle d'applications, où là, on passe carrément à d'autres choses, et où on admet qu'ils ne comprennent rien sur le plan scientifique, mais on va juste leur expliquer les résultats des techniques, quoi. Et je pense que là, je rejoins un peu Benjamin dessus, je pense que c'est un vrai problème, c'est-à-dire que sur les questions pour lesquelles il y a des vraies interrogations sociales, eh ben, tout compte fait, les connaissances scientifiques sont jamais donné vraiment. Et sur les aspects pour lesquels on donne les connaissances scientifiques, c'est ceux qui, si elles interrogent des choses au niveau social, c'est exclusivement au niveau philosophique, c'est pas au niveau des technologies en cours. Tu m'entends, Michel ?
Je vous rappelle que vous écoutez le Club Science Publique sur France Culture en direct depuis le studio 167 de la Maison de la Radio et que nous débattons aujourd'hui de la question « Qu'est-ce que la médiascience ?» avec nos invités Benjamin Dessus, ingénieur et économiste, président de Global Chance, Michel Classens, auteur de « Allô la science, analyse critique de la médiascience » publié chez Hermann, Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et Jean Yvenot, médecin journaliste scientifique à Slate.fr. Et vous pouvez, comme d'habitude, nous adresser vos réflexions et vos commentaires sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.com. Jean Yvenot, justement.
Moi, je pense que je voudrais qu'on élargisse un petit peu le paysage, parce que là, on est un peu réducteur, me semble-t-il. Ce qu'on appelle le journalisme scientifique, ou le journalisme médical, etc., ne se réduit pas à la vulgarisation de publications scientifiques dans les journaux de prestige. Il y a tout un autre pan d'activité qui est une activité, alors là, pour le coup, beaucoup plus originale et beaucoup plus journalistique, qui est l'utilisation du savoir du journaliste sur ses sujets de prédilection, qu'ils soient scientifiques, médicaux, etc., pour nourrir des controverses, des problématiques, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et on n'est plus du tout là dans la vulgarisation de la publication. La centrale japonaise l'affaire a été commentée essentiellement par des gens qui connaissaient, des journalistes qui connaissaient très bien l'énergie nucléaire, son histoire, son industrie, etc., etc. L'affaire terrible, entre guillemets, du Mediator en France, est commenté par des gens qui connaissent très bien le monde du médicament, l'industrie pharmaceutique, etc. On pourrait multiplier à l'infini des choses comme ça. Et puis, il y a une autre dimension encore, c'est, vous parliez tout à l'heure de la problématique des OGM, le journaliste peut recueillir des avis dissonants au sein de la communauté et nourrir des controverses, où d'ailleurs la science, parfois, n'est pas capable de répondre aux questions qu'on lui pose. Donc ça donne des feuilletons, entre guillemets, qui sont des feuilletons tout à fait passionnants et qui, là, pour le coup, trouvent de l'audience. Mais encore faut-il que les médias conservent effectivement leur capital journalistique de savoir sur des sujets qui sont, donnés.
Et tout à fait, sur les OGM, c'est-à-dire que la meilleure synthèse qui a été faite à ma connaissance pour le moment, et commence à dater un peu, c'est le livre d'Hervé Kempf, de la guerre secrète des OGM. Donc effectivement, il y a du vrai travail de ce point de vue-là qui est fait. Le malheur, c'est qu'effectivement, et là je pense que ça ouvre à un autre aspect de ce qu'on doit discuter, c'est que Dans une affaire comme celle des OGM, il y a des intérêts, des capitaux énormes qui sont en jeu. Maintenant, c'est clair, et du coup, il y a un lobbying très très fort. Les scientifiques, eux-mêmes, sont bien sûr soumis à la pression de ces capitaux, parce que quand même, il est clair que si jamais les biotechnologies ont des vrais problèmes dans un pays, eh bien, les boîtes de biotechnologie vont arrêter de donner des bourses de thèse. Ça se traduira pas seulement par un peu moins d'argent dans les labos, ça se traduit par moins de chercheurs dans les laboratoires, hein. Et le résultat, c'est qu'on voit bien que les gens qui sont en faveur des OGM, bah, c'est les laboratoires de biologie moléculaire, alors que ceux qui sont plutôt opposés, c'est les laboratoires d'écologie. De même d'ailleurs que pour le climat, ceux qui pensent qu'il y a des vrais problèmes avec l'activité humaine sur les climats, bah, c'est les climatologues et les écologistes. Et puis ceux qui pensent que tout compte fait, tout ça, c'est pas tellement dû à l'homme, bah, c'est les géologues qui, eux, ont intérêt à ce qu'on continue à chercher du pétrole et du charbon, parce que c'est de ça qui tire leurs moyens. Donc, Donc vous voyez que dans ces contrôles...
Quel raccourci.
Bah non, mais écoutez, il n'y a pas besoin de... C'est pas compliqué. Hein. Les climato-sceptiques, c'est quasiment tous des géologues. J'y peux rien, moi. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein.
Non, mais c'est peut-être un hasard. Et c'est peut-être forcément téléguidé.
Alors nous,
par,
en science, on sait faire des tests statistiques qui montrent si jamais ça peut être un hasard ou pas. Et là, non.
C'est vrai. Ce que vous dites est vrai en France. Je ne sais pas si c'est exactement le cas à l'étranger également. On connaît moins les climato-sceptiques en Angleterre ou aux États-Unis ou en Allemagne qu'en France.
Moi aussi.
Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a un échantillon très réduit, vous en conviendrez, pour faire une généralisation sur la nature des climato-sceptiques.
Très réduit.
C'est-à-dire deux personnes.
Ah oh non. Il y en a d'autres.
Des noms.
Mais aux États-Unis, ils sont portés par des grands lobbies pétroliers et charbonniers, sans aucun doute.
Alors, il faut quand même effectivement revenir à Michel Classens, à cette nouvelle, cette autre ressource, cette autre médiation qui est celle qui vient de l'actualité et non pas de la recherche scientifique. On est parti de cette courroie de transmission que peuvent réaliser les journalistes scientifiques. Il y a aussi, dans l'autre sens, quand l'actualité comme Fukushima, par exemple, survient, eh bien, les scientifiques sont interrogés par les journalistes. C'est plus, donc, c'est dans l'autre sens que les choses se passent. Et donc, c'est un autre rôle.
C'est un rôle essentiel, d'ailleurs, et je rejoins Jean-Yves Naud sur ce point, est difficile. Hein. Difficile parce que déjà, à la source, les scientifiques sont mal à l'aise dans une communication instantanée, à chaud. Hein. Ils ne sont pas du tout habitués ni formés à ce type de communication. Mais là, le rôle des journalistes scientifiques, entre guillemets, parce que donc ça regroupe une catégorie professionnelle assez étendue, est tout à fait essentiel pour recouper les sources, donner aussi leur propre vision des choses basée sur leur expérience et leur connaissance. C'est tout à fait essentiel. Et donc, je dis bien dans l'ouvrage, la médiascience, c'est probablement ce qui manque le plus à la science à l'heure actuelle. Parce que justement, elle remet des recherches et des développements technologiques dans un contexte. Et donc, elle établit ce pont entre la science et la société que un peu partout, on appelle de tous nos voeux.
Benjamin Dessus, vous sentez, vous pensez que ce rôle est assuré aujourd'hui, dans ce sens-là ?
Je pense que tout mettre sur les journalistes n'est pas une bonne idée. Je pense que la science elle-même a beaucoup à se reprocher dans cette affaire. Et que sa façon d'expliquer les choses aux médias n'est pas toujours très compréhensible. Vous avez vu, après l'accident de Fukushima, les gens du CEA, de toute la série des gens qui s'occupaient du nucléaire, ont raconté des choses sur les accidents, les probabilités d'accidents, etc. On parlait d'une chance sur un million par année réacteur. Ça a été reproduit par les médias sous cette forme-là. C'est totalement incompréhensible pour un citoyen. Totalement incompréhensible. Si vous expliquez aux citoyens aujourd'hui que sur la base de l'accident de Tchernobyl et des trois accidents graves ou majeurs de Fukushima, ça fait quatre accidents majeurs pour 450 réacteurs qui ont vécu 30 ans, ça veut dire que vous avez une certitude statistique aujourd'hui d'avoir un accident en Europe dans les 30 ans qui viennent. Voilà, ça vous pouvez expliquer ça. Et ça, c'est simplement un calcul de règle de 3. Bon. Aucun scientifique n'ose dire une chose pareille et se réfugie derrière des années réacteurs en 10-6, si vous voulez. Alors là, à mon avis, ce n'est pas le journaliste qui est d'abord responsable, c'est le fait que vous avez un groupe de gens, et là, dans le cas du nucléaire, ce sont des gens qui ont tous la même culture, il n'y a personne à l'extérieur pour dire autre chose, qui répète une espèce de discours totalement incompréhensible par les citoyens, répété par les journalistes. Et ça, moi, je trouve ça très grave.
Jean-Yves Naud, sur cette aptitude ou pas des scientifiques à déjà faire un petit pas vers le public.
Oui, mais c'est très intéressant, mais l'autre caractéristique, me semble-t-il, de l'époque que nous vivons, c'est une succession de problématiques, les OGM, les risques nucléaires, la téléphonie mobile, etc., dans un cadre en particulier en France défini par le principe de précaution et, comme je le disais il y a quelques instants, une science qui n'est pas en situation d'évaluer, de répondre aux questions qu'elle lui pose, d'évaluer raisonnablement le risque. Pour la téléphonie mobile, c'est absolument remarquable. On a beau bâtir des systèmes infinis, d'ailleurs, dont on suppose qu'ils ne sont pas bons parce qu'ils sont payés par l'industrie en partie de la téléphonie mobile. Enfin, on pourrait multiplier multiplier les exemples à l'infini, et face à une science qui ne peut pas répondre aux questions, c'est vraiment le point d'interrogation majeur. Moi, je me souviens de l'histoire de la... du drame de l'affaire de la vache folle, où dès le début, des mathématiciens prédictifs ont voulu faire une évaluation du nombre de personnes qui pourraient être contaminées. Ils l'ont fait beaucoup trop tôt, mais ça, on l'a pris. Où on était en centaines de milliers de victimes potentielles au Royaume-Uni. Donc là, le journaliste répercute.
C'était reproduit par les médias.
Mais évidemment, mais par moi-même. Bien évidemment.
Je n'osais le dire. Benjamin Dessus. Non.
Pour revenir dans l'autre sens, pour reprocher un certain nombre de choses aux journalistes, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expérience étonnante qu'était le discours de Ségolène Royal contre le futur président Sarkozy à la télé pendant les élections.
La confusion électricité-énergie.
Voilà, et avec un des personnages qui disait « l'énergie nucléaire, c'est 17% de la réalité », l'autre disait 80%, et le journaliste n'a rien dit. Et ça, alors là, je trouve ça absolument effarant que le gars n'ait pas la réaction de dire que vous pouvez dire 17% ou 80% ou autre chose, mais pas les deux à la fois.
D'autant que ce n'est pas un problème purement scientifique, c'est plus économique en fait que scientifique.
Non, ce n'était pas économique, c'est factuel.
C'était un journaliste politique.
Ben oui, ben alors il faut que les journalistes politiques... Non, on peut ne pas savoir. Le journaliste pouvait ne pas avoir la réponse, mais pouvait avoir quand même le réflexe de dire « vous ne pouvez pas dire 17% à 80% à la fois ». Or, ça a disparu en France depuis un certain temps. Je trouve ça extraordinairement dommage.
Ce débat a eu d'ailleurs des conséquences aussi sur Wikipédia, puisque votre président, enfin notre président, puisque je travaille en France, je peux dire notre, à ce moment-là a déclaré que le réacteur EPR était de la quatrième génération, alors que c'était incorrect. Du coup, il y a des partisans qui ont été modifiés immédiatement sur le site Wikipédia. Les gestionnaires de Wikipédia ont vu ça, ils ont corrigé. Alors les partisans de Ségolène Royal sont intervenus aussi, et donc ils ont bétonné le site après ce débat-là.
Oui. Pierre-Henri Gouillon.
Ouais, je voudrais revenir à ce qu'a dit Jean-Yves Nau sur l'histoire du principe de précaution. Je pense qu'effectivement, d'abord, il faut savoir que le principe de précaution a été donc inclus dans l'annexe à la Ve République, à la Constitution de la Ve République consacrée à l'environnement, contre l'avis des scientifiques, hein, enfin des instances représentant les scientifiques. Il y a plein de scientifiques qui sont d'accord, mais les instances qui les représentent, en gros, ne l'étaient pas, et en particulier l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, ont œuvré autant qu'elles le pouvaient pour éviter ça. Donc il ne faut pas s'étonner si, du coup, ces questions-là ne sont pas très, très bien gérées dans le milieu scientifique. Il y aurait pourtant des manières de le faire, parce que ce qui est incroyable, c'est que quand on dépose un projet de recherche au CNRS, à l'INRA, à l'INSERM ou n'importe où, eh bien, au moins si on est en biologie, je vous garantis qu'il y a toujours un chapitre sur les applications potentielles. Peut-être pas en astronomie, mais en biologie, systématiquement, il y aura quelque chose sur les applications potentielles. Mais il n'y a jamais rien sur les risques potentiels. Or, on pourrait parfaitement demander qu'un programme de recherche contienne nécessairement une réflexion sur les risques et sur les recherches à faire pour les connaître. Mais ça ne fait pas partie de la culture, tout simplement. La culture des scientifiques à l'heure actuelle n'inclut pas le fait de se poser cette question-là à ce moment-là. Et ça a une importance très grande parce que, qu'est-ce qui se passe? On va donc mettre en place un projet de recherche qui a une application potentielle. Aujourd'hui, étant donné le fonctionnement économique et politique du monde dans lequel nous vivons, étant donné le niveau de compétition qu'il y a, dès que la recherche va commencer à être sur le point d'aboutir, les applications vont être lancées, avant même d'ailleurs que la recherche soit terminée. Et une fois que les investissements seront faits, que les applications seront sur les starting blocks, c'est là qu'on va se demander s'il y a des risques. Évidemment, il est trop tard. Il y a des tas de gens qui ont investi à fond sur ce truc-là, et ils vont se retrouver obligés de faire du lobbying pour éviter qu'on parle des risques. Donc vous voyez, si jamais il y avait une vraie culture chez les scientifiques, et ça je pense que les journalistes pourraient peut-être aider à ça, hein, en disant aux gens, mais posez-vous les questions plus tôt, bon Dieu, plutôt que de vous les poser au moment où les produits sortent, à ce moment-là peut-être qu'on pourrait avoir un rapport un peu moins conflictuel entre, non pas la science elle-même, mais les applications de la science qui, comme j'ai dit tout à l'heure, prennent une place tellement grande qu'elles occultent presque la science, et puis la société.
C'est un peu ce qui se passe avec les nanotechnologies, où on s'est rendu compte que la part d'études consacrée justement à envisager les risques était extrêmement
faible.
Mais
c'est tout le temps comme ça. Quand on a lancé Génoplante, hein, le truc qui était fait pour faire de la biologie moléculaire des plantes, j'avais demandé à ce qu'ils mettent 1% de leur budget sur les risques. Ça m'a été refusé.
Oui, mais moi, je trouve que vous schématisez un peu, parce que... je vais prendre un exemple. L'agence qui est en France chargée de la sécurité environnementale, à l'époque où elle n'était pas associée à l'agence de sécurité sanitaire des aliments, avait fait un énorme travail en réunissant des centaines, un grand nombre d'experts pendant une longue période pour reprendre toute la bibliothèque scientifique existant à l'échelon mondial sur les risques éventuels de téléphonie mobile. Les experts ont conclu qu'il y avait, le risque n'était pas, il n'y avait pas de risque évaluable en l'état actuel des connaissances, avec le recul qu'on a, etc., avec tous les moderatos qu'on peut mettre. Mais là, le responsable de cette agence a dit « ce n'est pas parce qu'un risque n'est pas évaluable qu'il n'existe pas ». Alors si on postule qu'il y a toujours un risque quelque part qu'on ne peut pas évaluer mais qui est potentiellement présent, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, le principe de précaution est justement là pour indiquer qu'il faut continuer les recherches pour évaluer mieux le risque.
Moi, je vous donne un autre... Ah, pardon.
C'est pas toujours aussi compliqué que ça.
Voilà, c'est ça.
là, on est dans un cas très compliqué. Je vais vous donner un cas qui est quand même assez marrant, le véhicule électrique. Ça fait 20 ans qu'on parle, 100 ans qu'on parle du véhicule électrique. Ça devient à la mode, on va peut-être faire des véhicules électriques. Ça va sortir. Et tout d'un coup, les gens se disent « Ah, mais on va avoir des problèmes de lithium. » Le lithium, c'est ce qui fait les batteries. Et on va avoir une pénurie de lithium. Est-ce que ça, on ne le savait pas il y a 10 ans ? On n'a pas découvert de nouvelles ressources de lithium. Donc, autrement dit, quand on lance ce genre de recherche, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a les ressources ? Est-ce que ça a des chances d'être un jour économique ? Est-ce que ça a des chances ou pas d'avoir des ennuis d'environnement ? Est-ce que ça a des risques vis-à-vis de la population ? Et ça, c'est des choses qu'on pourrait faire en parallèle et non pas en série. Absolument. Parce qu'effectivement, quand on les fait en série, on dit, ah ben maintenant, on a un Concorde, il faut s'en servir.
Hein ? Michel Classens.
Je voulais rebondir aussi sur ce que disait Benjamin dessus. Je ne veux pas tirer sur le pianiste, en l'occurrence les scientifiques ici, mais ils ont parfois des conceptions encore un petit peu simplistes, voire naïves, sur l'information. Par exemple, dans le domaine des OGM, on rencontre souvent l'idée que si le public est anti-OGM, c'est parce qu'il n'est pas informé, pas éduqué sur ces questions. Sur la communication aussi, ils sont quand même un petit peu... Il y a une manifestation anti-OGM, reconnaissons-la, acceptons-la. Les dirigeants de Monsanto m'ont dit lors d'une visite de leur siège aux États-Unis, on s'est complètement planté sur notre communication en Europe sur cette question-là. Donc il y a des approches parfois très, très naïves sur ces questions-là. Mais en même temps, il y a un potentiel de communication qui est énorme. J'avais organisé une conférence de presse à la Commission sur un gros projet de décodage du génome de la levure. Le scientifique qui avait coordonné ce gros projet, trois sciences scientifiques, était venu à Bruxelles. Il a commencé son exposé devant les journalistes. C'était incompréhensible. Et puis, après 10 minutes, poliment, il y a un journaliste portugais qui lève la main et qui dit « Excuse me, but can you explain ?» Pouvez-vous expliquer en simple mot, ce que vous avez fait. Et alors, il a réalisé qu'il était dans une conférence de presse et pas dans une conférence scientifique. Et il a donné un exposé qui était lumineux, très simple. Donc, tout ceci pour dire, les scientifiques sont habitués, formés, payés pour communiquer avec leurs pairs. Et donc, c'est ce volet de communication publique, y compris vers les médias, qui leur est étranger et qui leur fait peur aussi.
Pierre-Henri Gouillon.
Moi, je voulais profiter de l'occasion, parce que Michel Classens vient de parler du décodage du génome, et ça, je trouve ça un élément très intéressant, parce que, évidemment, on n'a pas décodé les génomes. Décoder, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre un texte codé et le rendre intelligible. Or, ce n'est pas du tout ça qu'on a fait, puisqu'on l'a simplement lu. Et donc, je m'étais plaint à mes collègues, on l'a lu sans le comprendre. Maintenant, on est en train d'essayer de le décoder, et ça, on en a pour quelques siècles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on dit décoder ? Vous voyez ? Et alors, quand je me suis plaint auprès de mes collègues qui font du séquençage, le terme officiel c'est séquencer, alors ils m'ont dit oui, mais si on dit séquencer le génome, les gens ne comprennent pas.
C'est vrai que décrypter, décoder, c'est plus.
Ah, décrypter, c'est pareil.
Oui, hein, je sais, ça a le même sens.
C'est faux aussi. Hein. Donc, décoder, décrypter, c'est faux, mais on le dit.
Mais c'est plus excitant que séquencer.
Et voilà, et ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont dit oui, ça, c'est les journalistes. C'est à ça que je voulais. Ça, c'est les journalistes. Et là, je me souviens d'une émission à France Culture, justement, qui était délocalisée à Évry, où on. Parce qu'on parlait de ces premiers séquençages massifs, et où chacun des scientifiques présents a employé le mot décrypté ou décodé, et pas la journaliste qui était Marie-Lyne Mongicourt, c'est pas elle du tout, c'est les scientifiques qui ont employé ces mots. Parce que justement, quand ils savent qu'ils parlent au grand public, quand ils font un peu attention, du coup, là, ils se mettent à employer des mots sexy et éventuellement faux, hein, pour arriver à. Parce que. Avant de leur soupe, parce qu'évidemment, dire qu'on est vachement content qu'on a réussi à séquencer le génome humain et que maintenant on a 3 milliards de lettres, un message de 3 milliards de lettres dont on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, ça n'aurait pas fasciné les gens, hein, c'est clair.
Oui, mais moi je pense qu'on ne peut pas... Remontons au 19e, Jules Verne, Flammarion, etc. ont vulgarisé à leur façon en racontant des histoires. Et pour vulgariser, il faut aussi raconter une histoire. Là, c'était quoi? Il faut des métaphores, il faut... c'était le grand livre de la vie. On va décoder le grand livre de la vie. Mais ça, c'est effectivement les scientifiques qui ont alimenté ces métaphores, qui les ont trouvées pour les journalistes et puis aussi pour se faire plaisir. Ils étaient dans une immense aventure merveilleuse. Effectivement, on est loin d'avoir compris ce qu'on était en train de lire.
Voilà. Ça crée une forme de positivation aussi, oui, dans certains cas, qui est un peu excessive. Ça devient un conte de fées et non plus, oui, une relation de faits scientifiques véritablement. Benjamin Dessus.
Je ne sais pas comment réagir là-dessus. Parce que je suis assez sensible au fait que le journaliste doit raconter une histoire et trouver des métaphores pour essayer d'expliquer à des gens qui ne sont pas spécialistes, par analogie, un certain nombre de choses. Moi, ce que je leur reprochais, c'est de se contenter de raconter l'histoire et pas la fin de l'histoire. Quoi, si vous voulez.
Rien n'empêche,
c'est toujours pareil.
C'est par rapport à l'exemple que vous donniez tout à l'heure, rien n'empêche de raconter la fin de l'histoire Viterre.
Oui, rien n'empêche, mais ça ne se fait pas. Donc on en reste à une espèce de conte de fées. Très souvent, on reste à une espèce de conte de fées qui fait plaisir aux gens, mais sans qu'à un moment ça soit raccroché à une réalité. Au moins dans les domaines que je connais bien, qui sont l'énergie, des choses comme ça, qui sont des applications très techniques.
Pierre-Henri Gouillon. Mais je pense que ça serait bien pour les auditeurs et pour moi-même que tu nous dises, parce que moi j'ai entendu la fin de l'histoire d'ITER, c'est que...
Je vous signale quand même que nous avons le responsable de la communication d'ITER en la personne de Michel Classens,
si ça marche, on aura
assume ce rôle depuis quelques mois.
Non polluante et sans danger d'explosion.
Si ça marche,
ça sera formidable.
On ne sait pas si ça va marcher, etc. C'est très compliqué, on prend 10 ans de retard tous les 10 ans, etc. Bon, mais on y arrivera un jour et ça va sauver la planète, en gros. Alors on dit, mais comment ça va la sauver, quoi? Et ça, cette description, quand est-ce qu'on saura faire des réacteurs de fusion? Est-ce qu'ils polluent? On vous dit, ah non, ils polluent pas parce qu'il n'y a pas de déchets de fission, ce qui est une tautologie, parce que comme on ne fait pas appel à la fission, il n'y a pas de déchets de fission, c'est évident. Il y aura d'autres déchets. Ce sera les déchets de fusion, c'est tout. Alors, ils ont d'autres inconvénients, bon, voilà. Bon. Et puis, c'est des énormes réacteurs parce qu'il faut que ça soit très gros. Et comment ça se place et où est-ce qu'on en met, si vous voulez. Et comment ça se place dans le 21e ou le 22e siècle pour sauver effectivement la planète? Jamais vous n'avez cette histoire.
Alors Michel Classens va nous la donner, cette fin de l'histoire, en quelques mots.
Je ne prétendrai pas répondre à cette question complètement.
C'est dommage.
Le peu que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que... me semble-t-il, la communication porte surtout sur la fin de l'histoire et très peu sur le béaba et la technique.
C'est une fin d'histoire très courte, c'est-à-dire c'est la solution idéale à tous les problèmes existants en matière d'énergie.
Non, c'est pas la solution idéale. Enfin bon, ça dépend quelle source vous consultez.
Idéale au sens où elle apporte ce dont on a besoin et qu'elle n'a pas les inconvénients de la fission.
C'est une solution, mais c'est pas la solution idéale. C'est une partie des solutions que nous devrons sans doute mettre en œuvre à l'avenir. Mais j'ai un regard quand même assez positif dans le sens où ce que je vois dans les médias, ce que je vois aussi dans la population locale, nationale, internationale, il y a peu de confusion entre fusion, fission, relativement peu.
Sauf un ministre géologue, mais bon.
Oui, même si le mot nucléaire, l'adjectif nucléaire les unit, les rapproche.
Qui fait surface régulièrement.
Il y a relativement peu de confusion entre ces deux aspects, ce qui conforte mon propos. Les citoyens, finalement, sans rentrer dans les détails, ils ne connaissent pas le détail de la circuiterie de tout cela, mais sont relativement bien informés en général.
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture et que notre débat d'aujourd'hui a pour thème « Qu'est-ce que la médiascience ?» avec nos invités Benjamin Dessus, président de Global Chance, Michel Classens, auteur de « Allô la science, analyse critique de la médiascience » publié chez Hermann, Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et Jean Yvenot, médecin journaliste scientifique à Slate.fr. Jean-Yves Nau qui veut réagir à ce qui vient d'être dit.
Non, je veux inverser les rôles et poser une question à Michel Alberganti.
Ça, ce n'est pas prévu dans le directement.
Mais c'est, je
mais
le fais
interdit.
Je le fais parce que c'est une question que doivent se poser beaucoup d'auditeurs de France Culture en ce moment. Pourquoi avez-vous glissé dans votre introduction le, j'ai oublié le terme, mais disons l'affaire qui concerne l'ancien directeur du Fonds monétaire international?
Parce que je trouve que justement dans les commentaires que nous entendons à la radio ou à la télévision, eh bien, une partie concerne l'analyse psychiatrique de ce qui a pu se passer à l'intérieur du cerveau de Dominique Strauss-Kahn pour l'amener éventuellement, si c'était confirmé, à perpétrer les actes dont il est accusé.
Très bien, donc vous considérez la psychiatrie comme une science?
Oui, en fait, la psychiatrie étant une partie de la médecine, on étend souvent la science à la médecine, effectivement.
Alors non, tout ça, c'est vraiment de la cuistrerie de ma part. Tout ça, c'est pour rappeler cette célèbre formule qui est que la médecine est un art qui se nourrit de science.
Oui, mais le problème, c'est que malheureusement, l'ITER non plus, c'est pas de la science. Les OGM non plus, c'est pas de la science. Et donc, en fait, quand on
parle de
science, à chaque fois, on parle des applications, mais on parle jamais. Donc, la médecine, ITER ou les OGM, et la science elle-même, eh ben, c'est pas de ça qu'on parle, parce que la science elle-même, au fond, elle pose un vrai problème de pédagogie, en quelque sorte, parce que quand on découvre, j'ai essayé de ramener le boson de Higgs tout à l'heure, je peux vous en ramener d'autres. On a actuellement un débat tout à fait chaud au muséum sur la question de la sélection sexuelle telle que Darwin l'a définie, et dans quelle mesure est-ce que, effectivement, on doit voir les rapports entre mâles et femelles comme des conflits, un parasitisme ou au contraire une coopération, etc. Mais ça, c'est des sujets tout à fait théoriques, qui n'ont pas d'application directe, et du coup, on n'en parle pas.
Hein. Michel Classens.
Je vais venir au secours peut-être de notre animateur,
par
revenir
sur
l'affaire DSK, mais simplement pour dire qu'avec cette affaire-là en particulier et d'autres affaires récentes, Fukushima notamment, on constate cette forte pression sur les médias actuels de réagir dans l'immédiateté. Et les sciences sont très mal à l'aise avec les sciences et les scientifiques sont très mal à l'aise avec cette pression temporelle très forte. Alors sur DSK, on a dit sur les médias, il y avait une caméra vidéo dans le couloir. Et puis on a dit non, c'est pas vrai, etc. Sur Fukushima, on a balancé des chiffres au public, des millisieverts, des becquerels par seconde, etc. Sans donner de référence, sans parfois donner d'unité. Et donc sous cette pression temporelle, moi j'ai essayé de suivre de toute l'affaire Fukushima au début, de manière le plus détendue possible, avec mon bagage scientifique qui n'est pas négligeable. Et je me suis dit, mais comment le citoyen peut-il arriver à naviguer, à se faire une opinion dans cette pression de nouvelles, de chiffres, d'unités que l'on on vous jette comme ça,
les fameux
pratiquement,
si vertes et autres
sans
que l'on
définition,
découvre,
ouais. sans référence.
C'est plus simple pour le syndrome d'addiction sexuelle.
Il n'y a pas de problème d'unité, hein, c'est ça que vous...
Il y a un problème d'unité, précisément. De nombre.
Alors, comme je l'avais annoncé en début d'émission, nous avons une question de Umri Kirsten, qui est une étudiante... une étudiante donc de Paris 8, qui travaille sur la médiation scientifique et qui a travaillé donc sur ce livre de Michel Classens.
Oui, bonjour. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Quelles solutions aujourd'hui apportez-vous pour que le public retrouve de l'intérêt pour la science et que les scientifiques soient compréhensibles aux yeux de tous? Voilà, quelles solutions proposez-vous?
Alors voilà, c'est bien pour terminer cette émission, peut-être les améliorations que l'on peut apporter, les perfectionnements de la médiascience, Michel Classens.
Alors là, vous êtes parti sur la mauvaise voie, parce que là, vous voyez, vous prétendez que la communication est la baguette magique qui va pouvoir améliorer les relations des scientifiques avec la société. Non, non, je rigole, hein, je blague. Mais merci pour votre question. C'est un problème complexe, multifactoriel. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau européen, surtout les États-Unis, sont un petit peu à part sur ces questions-là, mais il y a une prise de conscience croissante de la communauté scientifique pour ces questions d'information, de communication. Il y a beaucoup d'initiatives en cours dans ce domaine-là. La preuve aussi, c'est vous, les étudiants. Il y a un nombre croissant de formations dans les universités, donc tout ça va dans le bon sens. Mais c'est un problème complexe. le journaliste scientifique Chris Mooney du Washington Post disait, pour améliorer ces interactions science-société, il faut aussi que les scientifiques écoutent le public.
Pierre Rigouillon.
Ben moi, j'aurais deux propositions. La première, ça serait qu'effectivement, la science redevienne une activité subventionnée par l'État en tant que telle, et que donc ce qui est technique et ce qui est déjà subventionné par les entreprises privées, eh bien c'est justement pas là que l'État devrait investir. L'État investirait dans la recherche pour des connaissances, et je suis sûr que les gens sont intéressés par les connaissances. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent au moins être au courant. Et donc ma deuxième proposition, ça serait qu'on arrête en France de maltraiter le documentaire et scientifiques, entre autres, dans les télévisions en particulier, comme on le fait. Il faut quand même voir qu'une chaîne comme Arte avait une émission scientifique qui a été fermée il y a quelques années, hein, Archimède, et il faut quand même voir qu'actuellement, pour obtenir des crédits pour un réalisateur de documentaire qui veut faire un sujet sur un sujet scientifique quelconque, pour obtenir des crédits, c'est la croix et la bannière à l'heure actuelle. Il faut voir que la proportion de documentaires qu'on passe dans les télés françaises et qui viennent de l'étranger, parce qu'on n'en produit pas du tout nous-mêmes, c'est énorme.
Alors quand j'allume Arte, l'étranger dont vous parlez, c'est l'Angleterre, les États-Unis, le Japon.
Qui jusqu'à présent avait un très bon système, mais qui est en train de se casser la figure aussi. Donc d'ici peu, on n'aura même plus cette ressource-là. Et quand j'allume Arte et que je vois des documentaires, le énième documentaire sur la fabrication des fromages de chèvre dans les causses de l'arrière du Quercy, je me dis que bon, quand même, on mettrait un peu de moyens pour faire des documentaires sur des questions scientifiques. Ça serait quand même pas moins attirant pour le téléspectateur que les fromages de chèvre en question.
Et donc, des brebis.
Et donc, voilà, moi je pense que ça c'est un élément. Donc effectivement, il y a quelque chose à changer dans le système de médiation. C'est justement que l'État devrait subventionner un minimum ce genre de choses.
Oui, d'autant qu'on peut, nous, on peut constater quand même avec cette émission que parfois certains sujets extrêmement théoriques qui relèvent vraiment de la science dont parlait Pierre-Henri Gouillon, comme par exemple les univers parallèles qui sont assez peu susceptibles de donner lieu à des applications immédiates, eh bien soulèvent un très grand intérêt de la part des auditeurs.
Et les effets dégénérés de l'environnement, on l'a montré encore il n'y a pas longtemps.
Hein, voilà, c'est... absolument. Benjamin Dessus.
Moi, j'insisterai sur la formation elle-même des chercheurs. Tout à l'heure... Michel Clessin disait que les scientifiques n'étaient pas du tout adaptés à la réponse en temps réel à un certain nombre de catastrophes. Mais ça, c'est parce qu'ils ne sont pas cultivés. S'ils avaient une culture générale avec des ordres de grandeur sur ce qu'ils font, ils sauraient répondre. Et actuellement, la spécialisation est telle que les gens n'ont plus d'idées générales sur leur propre domaine ou sur le domaine d'à côté.
Ils ne peuvent pas généraliser leur connaissance.
Pouvoir replacer ça dans un ensemble n'est plus possible. Il faudra un minimum de philosophie dans tout ça, quoi, si vous voulez. Or, j'ai peur que la formation des scientifiques et la façon dont on les fait fonctionner soient complètement antinomiques de ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire.
Jean-Yves Naud.
Je prendrai l'option complémentaire. Je crois que c'est essentiellement augmenter le nombre et la qualité de la formation des journalistes dans les écoles de journalisme, où en définitive, il y a très peu de filières spécialisées ou pré-spécialisées dans cette approche. Comme aujourd'hui, la quasi-totalité des journalistes qui existent avec une carte de presse sont passés par des écoles de journalisme. Il n'y a plus de scientifiques ou de médecins ou autres, etc., qui envisagent le journalisme après avoir un début de carrière professionnelle. Je pense que c'est là. Et les former à travailler suffisamment bien pour captiver l'attention du public, même si c'est sous la forme d'histoires suivies de feuilletons, de métaphores, etc. Et par ailleurs, quitte à vulgariser et à alimenter les polémiques lorsqu'elles existent, lorsqu'elles émergent.
Pour qu'il y ait cette formation qui se développe, il faudrait aussi quand même qu'il y ait quelques places de journalistes scientifiques dans les médias pour que,
effectivement, oui, c'est le corollaire, bien sûr.
Il y ait des débouchés.
Oui, mais là, on tombe sur une caractéristique un peu étrange, qui est que la quasi-totalité de la hiérarchie des rédactionnels des grands médias n'ont pas ou peu de culture scientifique. Ils ont une culture politique, diplomatique, économique, enfin multiforme, mais malheureusement très peu. Donc le système s'auto-tarit, pourrait-on dire.
Michel Clessin, c'est ça que vous notez également un petit peu dans votre livre, cette problématique des directions des médias qui ne sont pas forcément très sensibles à la chose scientifique, moins d'ailleurs que leurs propres auditeurs, oui, ou lecteurs ou spectateurs. Non, ça ne vous paraît pas être un problème majeur?
Je n'établirai pas de règle générale non plus. Il y a une grande variété de médias, de journalistes, d'intérêts, donc je n'établirai pas de règles générales. En revanche, ce que Benjamin Dessus disait, en effet, est préoccupant. Donc c'est cette ultra-spécialisation du monde scientifique et de la technique.
Il n'y a plus d'honnête homme en science, selon
ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça. Donc il n'y a pratiquement plus cet honnête homme. On devient ultra spécialisé, ultra compétent, mais sur un domaine microscopique, ce qui pose la question du rôle des scientifiques dans la décision politique.
Pierre-Henri Gouillon, est-ce qu'en tant que chercheur, il y a aujourd'hui des pistes, des voies qui permettraient aux scientifiques de faire cet effort, de faire cet effort de communication ou du moins d'apprentissage de la vulgarisation de leur domaine, peut-être aussi de s'habituer ou s'entraîner à élargir leur point de vue au-delà de leur propre hyperspécialisation. Est-ce que aujourd'hui, dans le mécanisme de la recherche française, il est possible est-ce qu'il existe un mécanisme ou est-ce qu'il est possible d'introduire un mécanisme qui favoriserait cette démarche des scientifiques?
Moi, je vous le redis, je pense que l'élément essentiel, ça serait quand même que la recherche soit plus vue comme essentiellement une activité de haute compétitivité entre les entreprises et entre les pays. Tant que ça sera comme ça, je vois mal comment on pourra demander aux scientifiques autre chose que de foncer dans leurs petits trucs, de surtout pas réfléchir. Il y en a d'autres qui s'occupent de ça et de produire ce qu'ils ont à produire. Et puis, comme ça, on fera tourner l'économie et tout le monde sera content. Le jour où on refabriquera une vraie science fondamentale et où on séparera suffisamment ce qui est appliqué de ce qui est fondamental. Et c'est difficile, hein, attention, parce qu'il ne faut pas croire que la recherche appliquée n'apporte jamais des questions fondamentales, évidemment. C'est moi qui suis généticien d'origine, je suis bien placé pour le savoir. C'est au fond pour des questions d'application, de compréhension de comment on améliore des plantes, que beaucoup de découvertes de génétique ont été faites. Mais n'empêche que je pense qu'il faut quand même un minimum de séparation entre les deux. Ce mélange terrible entre l'appliqué et le fondamental empêche les scientifiques d'avoir le recul qu'il faut par rapport à ce qu'ils font, le temps de penser. Dans les laboratoires, il y a énormément de gens qui ne pensent jamais. On fonce, on demande de l'argent. C'est un travail terrible de demander des crédits à l'heure actuelle. Une fois qu'on les a, il faut absolument les dépenser, puis vite. Vous savez, là, d'ici fin juin, il faut qu'on ait terminé les budgets de l'année. Et puis, il faut déjà refaire les demandes pour après. Il faut faire toutes les manips qu'on a à faire avec tous ces énormes équipements. Et après, une fois qu'on a ça, il faut publier. Et ben, le temps de penser, on ne l'a pas. C'est pas compliqué. Et c'est vrai que quand on lit des gens comme Darwin ou comme Lucrèce, on est abasourdi par la puissance d'un raisonnement qu'on n'est plus du tout capable d'avoir dans la recherche aujourd'hui.
Donc, il faut rendre aux chercheurs l'aptitude à penser.
Absolument.
Et pour pouvoir
le temps
justement
et la liberté
mieux,
de penser.
Mieux communiquer. Le débat du Club Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Benjamin Dessus, Michel Classens, Pierre-Henri Gouillon et Jean Yvenot d'y avoir participé. Merci également aux étudiants en licence communication de l'Université Paris 8 pour leur participation. Vous trouverez sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, des références d'ouvrages et de sites internet sur la médiascience, dont les ouvrages de Michel Classens, bien entendu. Sur notre site, vous pouvez aussi réécouter cette émission pendant plusieurs mois et la podcaster pendant une semaine. Et je vous rappelle le blog de Sciences Publiques, Enquête de Science, sur lequel nous continuons à suivre, entre autres, le déroulement des opérations sur la centrale de Fukushima Daiichi. La semaine prochaine, vendredi 27 mai, Sciences Publiques se penchera sur une question qui nous concerne tous. Notre attention est-elle maîtrisable? Réponse donc la semaine prochaine par nos invités. Jean-Philippe Lachaud, qui vient de publier chez Odile Jacob un ouvrage intitulé « Le cerveau attentif, contrôle, maîtrise et lâcher prise », avec également Cécile Traverse et Vania Herbillon. Sciences Publiques, Luc-Jean Reynaud, Stéphane Gobeau, Catherine Donnet, Michel Albergantil.